I'm a fan of Denmark, too. But, you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Depuis quand le Groenland est-il convoité? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec le spécialiste de la géopolitique des régions polaires, Mikko Blujon-Mered. Aujourd'hui, quatrième épisode, le Groenland, un enjeu de longue date pour les États-Unis. En remontant au 19e siècle, on constate que l'intérêt des États-Unis pour le Groenland n'est pas nouveau, même si les objectifs et les méthodes ont beaucoup changé. En 1867, le gouvernement américain, qui vient d'acheter l'Alaska à la Russie, envisage d'acheter le Groenland aux Danois, et pourquoi pas dans le même mouvement l'Islande voisine. À l'origine de ce projet, William Seward, un ardent expansionniste, qui est alors le secrétaire d'État, en charge donc des affaires étrangères. Un an plus tard, les négociations avec Copenhague sont presque terminées, un prix a été fixé, 5,5 millions de dollars, mais la vente finalement ne se fait pas. En 1910, le projet revient sur le tapis, mais il échoue à nouveau. En 1917, les États-Unis acceptent enfin de reconnaître la souveraineté du Danemark sur le Groenland. L'affaire semble donc réglée une fois pour toutes. Eh bien non, elle repart en 1946, au début de la guerre froide. Cette fois, le président Harry Truman propose 100 millions de dollars or au Danemark, l'équivalent de plus d'un milliard de dollars actuels. Pourquoi une telle offre? Entre-temps, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont découvert l'intérêt militaire et stratégique du Groenland.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Le 9 avril 1940, les troupes d'Hitler envahissent le Danemark et l'occupent jusqu'à la fin de la guerre. Le Groenland est alors livré à lui-même, mais pas pour longtemps. Un an plus tard, le 9 avril 1941 exactement, l'ambassadeur du Danemark, Henry Kaufmann, à Washington, contre l'avis de son gouvernement en exil, signe avec les États-Unis un accord qui permet à l'armée américaine d'établir des bases au Groenland. C'est ainsi que jusqu'en 1945, les États-Unis installent sur l'île de nombreuses infrastructures pour le trafic aérien et maritime, des stations radio et météorologiques, des ports, des dépôts, des postes d'artillerie, des stations de recherche et de sauvetage. Ils exploitent une mine de cryolite, utile pour leur effort de guerre. Mais surprise, ils découvrent que les Allemands ont secrètement installé au Groenland plusieurs stations météo qui seront détruites par l'aviation américaine. Les données météo collectées par les Alliés au Groenland serviront notamment à planifier le débarquement du 6 juin 1944. Mais quand la guerre se termine, les Américains n'entendent pas s'en aller. Si les Danois continuent de refuser de leur vendre l'île, ils acceptent la présence de leur base dans le cadre de l'OTAN, notamment la base aérienne de Thule, au nord-ouest de l'île.
Les étendues désertiques du nord du Groenland viennent de sortir de leur torpeur millénaire. Thule, la plus lointaine des terres du monde, comme l'a nommée l'Antiquité, devient vivante. Des avions survolent quotidiennement ces mers d'iceberg, car sur le toit du monde, à mi-chemin entre le cercle arctique et le pôle, l'aviation américaine vient de construire sa base la plus gigantesque. 12 000 tonnes de matériel ont été amenées ici. Et 8000 hommes, par une température atteignant moins 50, y ont réalisé l'opération la plus sensationnelle depuis le débarquement de Normandie.
En réalité, cette terre n'avait pas attendu la base de Thule pour être vivante. Les 27 familles de chasseurs inuits qui vivaient là sont chassées de chez eux sans indemnité. Une autre base secrète, enfouie sous la banquise, est construite en 1959 à l'insu des autorités danoises. Destinée au déploiement de 600 missiles nucléaires, capables d'atteindre l'Union soviétique en cas de guerre nucléaire. Le projet sera finalement abandonné en 1968, après le crash au Groenland d'un B-52 transportant des bombes nucléaires.
Palomares au Groenland, retrouvera-t-on les quatre bombes H que transportait l'avion B-52 américain qui s'est écrasé dimanche dans les glaces?
Le Pentagone précisait hier dans un bref communiqué que les bombes n'étaient pas amorcées et qu'il n'y avait par conséquent aucun risque d'explosion nucléaire.
Il faudra attendre les années 1990 pour apprendre en fait que les bombes avaient explosé sur la banquise, libérant des matières radioactives. Une révélation qui alors a fait scandale au Danemark. Mikko Blujon-Mered, on peut comprendre que les Danois et les Groenlandais, a fortiori, aient de la réticence, voire de la méfiance à l'égard des États-Unis.
Oui, parce que l'histoire ne commence pas avec la dimension « les États-Unis nous ont sauvés potentiellement de l'Allemagne nazie ». Il faut bien revenir à ce qui s'est passé au 19e siècle et au tout début du 20e siècle pour comprendre en fait qu'il y a toujours eu, sur les presque 200 dernières années, un intérêt des États-Unis naissant pour le Groenland. Et ce que les Américains, les États-Unis n'ont jamais réussi à donner aux Groenlandais, en particulier aux Kalaallit, les Groenlandais de l'Ouest, c'est une garantie que serait maintenue leur culture, leur langue, leur tradition. Bref, qu'il n'y ait pas un conflit de colonisateurs entre colonisateurs, le Danois d'un côté et l'États-Unien de l'autre.
Les Groenlandais donc, ont appris en 1995 que le gouvernement danois était au courant de l'existence de ces armes nucléaires, en fait, qui étaient pourtant interdites. C'est quand même difficile à entendre pour les Groenlandais aussi.
C'est difficile à entendre pour les Groenlandais, au premier chef pour les Inuits du nord-ouest du territoire, qui avaient été chassés, effectivement, et qui ensuite vivaient dans l'écosystème autour des bases. La base qui est devenue aujourd'hui Pitufik, autrefois qu'on appelait Thule, et puis la base de Camp Century, une autre base américaine dans la glace, qui là aussi était un endroit où était testé un certain nombre de technologies nucléaires. Donc fondamentalement, il y a un vrai sujet autour du nucléaire parce qu'on est dans une période, à partir de 1988, où en fait au Danemark, le débat sur l'uranium est arrêté, c'est-à-dire plus d'exploitation de l'uranium. C'est pile à ce moment-là que les Groenlandais découvrent que en fait, pendant des années, les Danois ont laissé d'autres, les États-Unis, manipuler de l'uranium et faire des bombes nucléaires sur leur territoire. Que sont devenues ces matières radioactives qui sont emprisonnées dans la glace? Aujourd'hui, on le sait, et c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle aux Kalaallit des États-Unis. C'est « Ah, ces Américains qui ont laissé leurs déchets dans notre environnement, dans notre terre. Aujourd'hui, on a des matières nucléaires, des matières radioactives qui sont en train d'arriver dans la mer, qui vont polluer, a priori, notre moyen de subsistance, la pêche, les animaux marins. Et de fait, c'est nous qui nettoyons, c'est pas eux. »
Quelles ont été les motivations américaines donc au 19e et au 20e? Il y en a eu plusieurs, comme ça, plusieurs tentatives pour chercher à acheter le Groenland. Est-ce que ces motivations ont évolué au fil des années?
Elles ont évolué, mais avec Donald Trump depuis 2019, on semble être retourné à cette logique-là. Quand William Seward propose de racheter le Groenland en 1867, auréolé de son succès avec l'Alaska, tout simplement, ce qui est imaginé ici, c'est « Ah, vous vous rendez pas compte, on va pouvoir contrôler le continent américain dans son ensemble. On a l'Alaska au nord-ouest, on pourrait avoir le Groenland au nord-est, on a évidemment la principale partie des États-Unis un peu plus au sud. Fondamentalement, on peut contrôler l'ensemble du territoire et l'ensemble des deux océans, le Pacifique et l'Atlantique. »
Est-ce qu'il n'y a pas une idée aussi d'éventuellement menacer le Canada, qui est pris en sandwich entre les deux?
Bien sûr, c'est-à-dire qu'à l'époque, encore une fois, le Canada n'est pas indépendant, puis 1905-1910, le Canada petit à petit va acquérir bien sûr son indépendance, et donc dans cette logique-là, il y avait une forme de prédation sur l'ensemble du continent nord-américain, pas que sur le Groenland. Donc avoir l'Alaska d'un côté, c'était un bon premier jet, puis avoir le Groenland de l'autre, c'était là aussi très très efficace, ou ça l'aurait été, et c'est pour ça qu'à la fois en 1910, puis ensuite en 1917, il va y avoir cette question de savoir est-ce que les États-Unis ne pourraient pas récupérer le Groenland de la part du Danemark. Et en 1910, ça a donné lieu à une proposition absolument dingue, c'est-à-dire c'était un jeu à trois bandes, où d'un côté, il fallait que donc, le Danemark donne le Groenland aux États-Unis, en échange de quoi les États-Unis auraient donné au Danemark des îles des Philippines que les États-Unis avaient donc sous contrôle. Et en échange, le Danemark aurait donné ses îles à l'Allemagne qui, l'Allemagne, aurait rendu au Danemark le territoire du Schleswig-Holstein.
Et avec tout ça, évidemment, on ne demande pas l'avis des gens.
Absolument pas. Ça a complètement échoué. Et en 1917, les États-Unis ont proposé de racheter le dernier territoire que les Danois avaient dans la Caraïbe, ce qu'on appelait à l'époque les Antilles-Danoises, les îles Vierges, qui sont devenues les îles Vierges américaines encore aujourd'hui. Et de fait, à l'époque, en échange, il fallait quoi ? Il fallait reconnaître la souveraineté du Danemark sur le Groenland, ce que les États-Unis ont fait, et qui constitue le principal problème pour Donald Trump aujourd'hui quand il dit « Mais comment on sait que les Danois ont vraiment le Groenland ?»
Ah oui. Et pour quelles raisons le Danemark refuse les offres qui sont quand même de plus en plus alléchantes des États-Unis? Est-ce que c'est de la fierté? Quand même, $1 milliard en 1946, c'est une sacrée somme quand même. On est au lendemain de la guerre, je pense que le Danemark a été occupé, et il a sûrement besoin d'argent.
Tout le monde a toujours su que le Groenland serait un territoire riche. Et là, je parle de richesse minérale ou de richesse halieutique. Donc, les richesses halieutiques, on le sait déjà, les eaux groenlandaises sont exploitées depuis déjà plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Maintenant, sur le volet minerai, tout simplement, les différentes découvertes qui ont été faites sur la partie du territoire, moins de 10%, 15% à l'époque du territoire groenlandais qui était libre de glace, tout simplement, ont attisé des convoitises. Et au Danemark, on savait très bien que ce soit de l'or ou d'autres ressources, le Groenland allait valoir plus que ce que les Américains étaient prêts à proposer.
Merci Mikko Blujon-Mered. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le Groenland a réussi à conquérir son autonomie.